Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. La vie des séries n'est pas un long fleuve tranquille, mais un torrent impétueux qui peut facilement emporter le nageur imprudent que nous sommes tous. Je ne sais pas si l'offre est supérieure à la demande, ou si la demande de divertissement est telle que l'offre suffit à peine à la remplir, mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'au bout du compte, elle se compte sur les doigts de la main de Mickey, les séries dont on se dit « Tiens, je vais m'offrir le coffret de l'intégrale parce que je sais qu'un jour ou l'autre, j'y retournerai ». Oui, comme on disait à l'époque du Grand Bleu, beaucoup d'apnée, peu d'élus. Moi, par exemple, je possède le coffret Soprano et celui de l'homme du Picardie. Et basta. Mais il est possible, voire probable, voire certain, que j'ajoute à ce début de collection le coffret du Bureau des Légendes qui sort aujourd'hui et qui regroupe donc l'intégralité des 5 saisons. Le Bureau des Légendes en est devenu une lui-même, dépoussiérant à lui seul les fictions avec des vrais morceaux d'espions dedans et parvenant à rendre passionnante une géopolitique infiniment plus complexe que la pensée politique d'un Nicolas Dupont-Aignan, exemple donné à titre purement indicatif, et cela à travers une galerie de personnages plus attachants qu'une poêle téfale. Et c'est de cette série désormais légendaire que nous parlerons avec son créateur et showrunner tout à l'heure dans Popopop, Éric Rochant. Après avoir rembobiné, si je puis dire, Ramzi Bedia, dont c'est l'une des activités préférées sur cette terre. Popopop, en ce 8 juin de cette année de merde 2020, c'est parti. Et c'est parti en musique avec Monsieur Oiseau, dont j'ouvre la cage pour notre plus grand plaisir à tous.
France Inter. Popopop. Antoine de Paul.
Sempre preoccupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.
Soffro di tutto ma non soffro il freddo. La mia città mi tiene al caldo, guerriero moderno. Quando mi sveglio forse è meglio che ritorno a letto. Mi guardo allo specchio, sembro Peter Pan da vecchio. Se faccio un figlio nasce un Modigliani, Punani. Se scendo al bar ritorno su domani, Punani. Salvo tua sorella sul telefono come Punani. Guardo le sue foto, mi emoziono, mi sporco le mani.
Io non è che ti ho detto che ti amo perché non avevo da fare. Io non è che messaggio né ti prendi a me pensare a guardare.
Ok, 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 ok. Quando mi chiami baby io sto cadendo Mayday.
Fella, vita bella, ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella. E se ti bacio per farti volare, Punani. Ma poi ti abbraccio e non devi scappare, Punani. Siamo io e te contro il mare. Ammazziamo le pare. Ra.
Io non è che ti ho detto che ti amo perché non. Pensaci tu, dai pensaci tu, che da quando non ci sei più non faccio
scrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Dolce Vita, c'est un morceau de Flatéric alias Monsieur Oiseau alias Quentin Dupieux. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui remplaçait en France le rappeur Xzibit pour l'adaptation de Pimp My Ride. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. Mais qui est donc ce thug de la pop culture? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Ramzy, c'est votre portrait, mais... À base de pop. Et il est signé Charline...
Aujourd'hui, nous recevons un homme passé de linguiste prof de français.
Sarcasme.
À proviseur de ciné, l'ascenseur de l'éducation nationale a donc bien fonctionné. Et c'est précisément ce qui l'amène ici, et ce, après quelques hésitations quant à la matière à enseigner. Alors, il y a d'abord eu sport et arts martiaux.
J'annonce coup de pied latéral...
en pleine face.
Il s'est tâté aussi sur l'allemand LV1.
J'ai l'accent allemand. J'ai bourré un gazding de nazi arabe.
Et l'anglais LV2.
Est-ce que tu comprends quand je te dis out?
De ne plus dedans.
Voilà, de ne plus dedans. Et ben je peux de ne plus être dedans en moins de 2 secondes.
Et je crois que l'opportunité d'enseigner la musique et le chant s'est également présentée. Avec donc par ordre d'apparition la tour Montparnasse infernale Hashtag des vents contraires, notre invité aurait également fait un excellent prof de SVT puisqu'il a été un hibou. Il aurait pu être un prof de théologie aussi puisqu'il a vaguement été imam.
Et alors où se trouvait votre mosquée?
Dans le Val-de-Marne.
Oui, le 9-4,
la mosquée Jacques Brel.
Ça, c'était dans Coexister. Il a aussi tenté le droit et la géopolitique.
Le monde va entrer dans une nouvelle ère, grâce à moi.
Mais pour le coup, c'était pas vraiment concluant, hein, peur des plaintes des parents. Place donc aujourd'hui au proviseur Ramzy.
Proviseur Ramzy, ça vous fait quoi d'entendre tout ça?
C'est marrant. Et vous parliez de... J'ai l'impression que c'est une autre vie, tout ça. J'entends les trucs. J'ai l'impression que c'est vraiment un autre mec. Ça avance, le temps passe.
Il y a des extraits très récents, pourtant.
Coexister. Il y a plein de trucs différents, c'est super. Mais j'ai un peu honte, j'ai même rigolé à certaines de mes blagues.
Bah.
Une bonne nouvelle.
J'ai bien aimé quand je dis à Eric, tu sais ce que c'est out et de ne plus dedans. Je fais, ça me fait encore rire, c'est fou. C'est Eric qui me fait rire encore. Quand je l'entends, il me fait rire encore.
Avant de savoir ce qui vous excite dans la pop culture, je sais ce qui vous apaise. Ce sont les mystères de l'amour, la série avec les anciens comédiens d'Hélène et les garçons.
Ah, bah ça fait du bien, une bonne douche. Mais qu'est-ce que je vois? C'est des petits pieds, ça. Je vais chatouiller.
Non, non, non.
C'est fou.
Non mais c'est vrai, ça vous apaise ça?
Mais comment vous savez ça?
C'est tout. J'ai préparé mon dossier.
C'est la honte pour moi. J'en rate pas un.
C'est vrai?
Je te jure.
Non. En boucle?
Ça me fascine. Oh, même pas en boucle, ça me fascine. Mmh. C'est fou. C'est incroyable. Je sais pas quoi vous dire. C'est un des meilleurs programmes. Ça me provoque des émotions. C'est fou ce qu'ils font.
Un personnage particulier qui vous plaît?
Alors là, j'ai un faible pour Xavier. Mm-hmm. Vous vous rappelez, c'était Tatiana et Xababa. Il y avait un duo de télé-réalité.
Oh là là, mais oui, bien sûr.
Et ben Xababa est intégré la série. Et c'est un flic. J'adore.
Mais il n'y a plus Cri-Cri, il n'est plus là.
Si, il est là, oh là là.
Cri d'amour.
Oui, oui.
Ah, cracra.
C'est fini, fini ces problèmes de drogue. Cracra.
Non, j'ai honte. Pourquoi on parle de ça sur France Inter?
Bon, allez, on se repasse un petit bout pour le plaisir.
Ça fait du bien. Ça fait 10 ans qu'il ne parle que d'amour. Chaque fois, tu allumes à n'importe quel moment.
Sujet éternel.
C'est tout ça. Alors, tu l'as embrassé. Non, ils ont 75 ans, les acteurs. Et ils sont encore, tu leur fais un panini. Non, je vais l'emmener au cinéma. C'est encore ces intrigues-là. Je les observe, les acteurs, ils se connaissent depuis 30 ans. Ça me fascine.
C'est une dystopie, bon, je pense que c'est un Black Mirror. C'est une réalité parallèle.
Ramzy, ça vous appelle, ça vous appelle. Très bien. Maintenant, passons à ce qui vous excite. Hop. Mais vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte.
Alors, je vous interromps sur cette question. J'ai eu l'honneur d'avoir déjà fait cette émission et j'avais sorti mes livres et tout ça cultes, des trucs vraiment cultes pour moi. Là, face à cette nouvelle liste, j'ai décidé de donner les choses qui me plaisent en ce moment, qui me plaisent énormément en ce moment.
Ah bon?
Quoi, bon?
Parce que on l'a pas reçu, en fait, votre liste.
Ah merde.
Donc on a choisi pour vous. On a choisi pour vous, on a recoupé des informations.
Alors, parce que bah,
attendez, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Pour le livre, nous avons choisi Le procès de Kafka.
Oui, oui.
Ça va, ça colle?
Oui, c'est des trucs profonds que j'aime à moi profondément.
Oui, mais c'est bien, on peut en parler.
Oui, mais on peut parler de nouveautés aussi, il y a plein de trucs nouveaux.
C'est pas une nouveauté, le procès?
Ben non, c'est un peu vieux maintenant.
On va quand même en dire un mot, parce qu'on a préparé Charles.
Ah, d'accord, pardon.
On va pas jeter tout ce qu'on a écrit non plus.
Oh, excusez-moi, pardon.
Charline, la seule différence entre le procès de Kafka et le procès de Bernard Tapie réside-t-elle dans le fait que Bernard Tapie est toujours vivant, lui?
Oui, l'autre différence, c'est que le héros du livre, Joseph K., un jeune cadre travaillant dans une banque et vivant dans une pension, ne sait pas, lui, pourquoi il est arrêté au matin de son 30e anniversaire, et ce, par 2 mystérieux agents pour un crime non précisé, que cette phrase est drôlement longue.
Voilà un bon pitch. Donc, vous validez quand même le choix.
Oui, complètement. Bon,
mais aujourd'hui, vous auriez parlé de quoi alors?
Mais vous savez, j'en rêve encore de ce livre. Je l'ai lu il y a 20 ans, et il m'arrive de me replonger dedans, et j'en rêve encore la nuit. J'ai l'impression d'être Joseph K. souvent. C'est un cauchemar, c'est pas un rêve. Voilà, c'est
intéressant. Vous auriez l'amabilité de nous en lire un petit extrait? Regardez juste sous vos yeux.
Oh, je vais rien lire, je vais vous dire un passage que dont je me rappelle de tête, que je connais par cœur. K ouvrit de grands yeux. Ainsi, cet inspecteur lui faisait la leçon, bien que K fût peut-être son aîné. Voilà qu'il se faisait taper sur les doigts pour avoir été franc, et on ne lui disait rien des motifs ni des initiateurs de son arrestation. C'est deux têtes, hein, donc j'ai peut-être des erreurs.
Il n'y a pas de papier sur
la table. Si les gens voyaient... Il se sentit gagné par un certain énervement, et se mit à aller et venir, ce dont personne ne l'empêcha. Il rentra ses manchettes, tripota son plastron, passa une main sur ses cheveux, et, arrivé derrière les trois messieurs, dit « Tout cela est absurde ».
Stupéfiant, vous connaissez ce livre par cœur, donc.
Je connais plein d'autres passages de plein d'autres livres,
c'est vrai.
Vous me demander, oui. N'importe quoi.
Non, écoutez, on va en rester à celui-là, parce que ça, c'est un livre qui vous fait faire des cauchemars.
Encore mais aujourd'hui.
Quel genre de cauchemar? Vous vous réveillez en cloporte, comme dans cet autre livre de Kafka, La Métamorphose. Je profite de cette question pour que l'auditeur se dise, quand même, ce de Kuhn, il connaît au moins deux titres de Kafka.
Mais j'ai l'impression, je fais toujours ce cauchemar que j'essaye de rentrer chez moi et que je n'y arrive pas. Et je rencontre plein de gens qui me mettent sur la mauvaise direction et qui me sourient. Exactement comme Joseph K dans le procès, qui ne comprend pas pourquoi il est là et tout le monde lui sourit et l'emmène, le balade à gauche, à droite.
Un peu comme on le fait en ce moment, en vous souriant?
Oui, mais là je suis en confiance dans mon cauchemar, j'ai peur.
Bien, Ramzy, pour votre film, alors là, nous avons misé sur...
Vous avez tapé juste.
C'est pas à côté.
Ah ben non, ah, quand même. Jusqu'à Creed, qui est sorti il y a pas longtemps, où on a Creed 2, qui me donne des frissons aussi. Des Castallone et des gants de boxe, ça marche.
D'accord, alors Charline, Rocky, oui, mais lequel? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 ou Rocky 4?
Peu importe, ça reste l'histoire d'un étalon italien amoureux d'une femme prénommée Adrienne, et accessoirement le prénom de votre premier héros dans votre film solo, comme réal,
oui.
Hibou.
Oui, c'est pour d'où ma passion pour
Rocky.
C'est
pas un hasard.
Rocky. Ah non, c'était voulu même. Je voue un culte à Rocky.
Mais pourquoi?
Et je sais pas.
Alors, d'abord, à Rocky ou à Stallone?
Aux deux. Aux deux. Mais Rocky, aux deux, mais à Rocky vraiment, je trouve qu'il y a toute la vie, il y a toute la vie. Dans chaque moment de sa vie, on peut se référer à Rocky, chose que je ne fais pas, bien entendu, hein. Mais je trouve que c'est une leçon de vie. Et puis, techniquement, c'est parfait. C'est l'empathie qu'on a pour le personnage, la déception, des fameuses scènes d'entraînement, la musique. C'est le film parfait. Dans beaucoup de films, je me fais chier à les regarder. Enfin, il y a toujours un moment down, un moment où on se fait chier vers 1h10 du film. Et chez Rocky, non. On connaît la mécanique et elle fonctionne tout le temps. Je crois que c'est fait avec tellement de sincérité que ça fonctionne.
Et toujours Rocky, jamais Rambo.
Non, je suis pas Rambo.
Pas Rambo.
Non, je suis pas Rambo. Il n'y a pas la vie dans Rambo.
Ouais.
Alors que dans Rocky, c'est une leçon de vie.
Ok, très bien. Alors je continue ma pop list avec la série que vous n'avez pas choisie. Donc, et cette série, c'est The Night Of.
Ah, c'était bien cette série.
Ah, c'était bien
avec
ça.
Avec Turturro.
Bah oui, créé par Richard Price et Steven Zalian en 2016. Charline, ne s'agirait-il pas, comme dans le procès de Kafka, d'un réveil difficile?
Mais absolument, Antoine, tout à fait. Après une soirée de folie naze, Riz Ahmed se réveille à côté d'une jeune femme qui est très 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 morte et il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il est inculpé pour ce meurtre et un avocat bon marché mais tenace se propose de l'aider.
Bonne annonce.
What's your name, son?
Naz.
Where she says she wanted to go?
The beach.
The what? The beach? What happened, Nas?
Alors, plutôt The Night Of que les mystères de l'amour, quand même.
Oui. Mais The Night Of, tu regardes ça et ça finit. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Les mystères de l'amour, t'en prends pour 30 piges. Et ça ne me déçoit pas. Mais Van et moi là-dessus.
Mais non, pas du tout. Alors pourquoi The Night Of?
Alors, écoutez, je dois vous dire la vérité. J'aimais beaucoup cet acteur.
Riz Ahmed.
J'aime beaucoup. Je l'avais découvert dans.
Les mystères de l'amour.
We Are Four Lions.
Oui.
Et c'est là que j'avais découvert.
Les terroristes ratés,
j'avais trouvé ça fabuleux. Donc j'avais suivi. Et puis Turturro, je me suis toujours un petit peu identifié à lui, ce grand, un peu grand, mince. Et la série est formidable. C'est noir, c'est sombre, c'est super.
Et Riz Ahmed qui est aussi génial dans le film d'Audiard, Les Frères Sisters.
Merci Charline. pour ce complément d'information.
Je vous en prie.
Et terminons cette playlist avec votre chanson culte. Et cette chanson devrait être celle-ci.
Alors quoi? Alors, bien évidemment, James Brown au-dessus de tout le monde.
Oui.
Bien évidemment, je sais que vous êtes un aficionado aussi.
Ah oui.
Mais pas cette chanson.
Laquelle?
Oh, il y en a tellement de James, il y en a tellement. Mais celle-ci et Sex Machine, je ne peux pas les écouter. Mm-hmm. C'est un peu comme Michael Jackson, Thriller, Beat
It. Trop entendu.
Trop entendu. Pour moi, et ça ne représente pas James Brown, ça.
Moi, j'adore The Big Payback.
J'adore beaucoup. Hot Pants.
Hot Pants. Big Payback.
People Get Up and Drive Your Funky Soul.
Mm-hmm. Non, mais là, on se parle parce que je me dis que pendant ce temps-là, Ghislain Fontana, notre réalisateur,
il bouge pas,
va
Antoine.
Voir la règle nécessaire pour envoyer un des titres que nous venons de citer. En est-il capable? Voyons voir. 3, 2, 1, 0. Pas du tout. C'est Ghislain Fontana.
Vous aviez préparé des titres récents, vous disiez, Ramzy, pour cette pop-list? Vous aviez pensé à des choses plus récentes?
Oui, j'avais pensé à trois nouveaux trucs. J'avais envoyé un texto à mon attaché de presse
qui a merdé, en fait.
Oui, parce que moi, je vous montre les textos. En livre, j'avais dit des nouveaux goûts pour moi. J'avais dit Houellebecq, que je viens de découvrir.
Ouais.
J'ai découvert Houellebecq et j'ai pris une baffe.
Mm-hmm. Mais lequel?
Alors là, je suis dans. J'ai lu Soumission, j'ai lu Extension du domaine de la lutte, et là, je suis dans Sérotonine.
Le dernier.
J'ai pris une baffe. Et lui, vraiment, je savais pas quoi en penser de celui-là. Mm-hmm. Je ne savais pas.
Bah voilà, il vous a giflé.
Je me suis dit, Ramzy, au lieu de faire un avis, je sais pas quoi, prends un bouquin et lis-le. Mm-hmm. Baf.
Et baf. Trois.
Ok.
Ouais, j'ai pas fini avec lui. Hein. Vraiment, il est super. En film, j'avais pris Three Billboards.
Ah bah ouais. Oui, magnifique.
Quel film. Je l'ai vu dans l'avion et après je l'ai revu à la maison pour vous dire que j'ai bien aimé ce film.
En français, trois panneaux. Hein.
Ouais.
C'est pas les trois panneaux.
C'est trois panneaux. Mais regardez pas comme ça, Charline.
Si, c'est trois panneaux. Eh ben, je vous le conseille, trois panneaux, si vous l'avez pas vu. Hein.
Trois panneaux de la vengeance, même. On peut pas l'appeler comme ça.
Les panneaux de la vengeance, tout à fait.
Et en musique, j'avais mis Fianso.
Ah oui.
Très bien.
Parce que je trouve qu'il ramène un. Que j'adore. Voilà.
D'accord.
Il vient sur votre terrain.
Pardon ?
Il vient sur votre terrain, il vient acteur, Fianso. Donc.
Et il est bon acteur. Mmh. Il est bon acteur. Oui. Mais c'est un très très bon gars et j'aime beaucoup sa musique.
Vous n'aviez pas choisi les Fugees en musique ?
Dis donc.
Je sais tout.
Et j'avais choisi les Fugees parce que je redécouvre les Fugees et je trouve que c'était fou leur musique. Et quand je réécoute les Fugees aujourd'hui, je trouve ça au-dessus de plein d'autres choses encore.
Vous étiez au concert de Lauryn Hill ou pas?
J'étais très très déçu.
J'avais attendu 2 heures.
Très très déçu.
Parce qu'elle n'y était pas, en revanche.
Mais en revanche, je l'ai vu sur Arte, un concert de Lauryn Hill en Suisse, et c'était fabuleux. Et c'était gratuit.
Comme quoi, vaut mieux regarder Arte qu'aller.
À Bercy.
Enfin, à Bercy. Enfin,
à la Corotel Arena.
À la Corotel Arena, d'accord.
Ouais, mais pourquoi tu l'as dit? On se fait engueuler si on le dit pas?
Non. Ah
bon? Bon, bah écoutez, je résume. Donc, la pop-list, mais la précédente, Kafka, Rocky, The Night Of et James Brown. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Ça nous donne ça.
Voilà qu'il se faisait taper sur les doigts pour avoir été franc, et on ne lui disait rien des motifs ni des initiateurs de son arrestation.
What's your name, son? So good, so good, I got a year.
What, the beach? What happened, Nas? Hey!
Je crois que vous venez, de résumer ma vie, en fait, là.
Mm-hmm. Je suis parti.
Je viens d'écouter mon univers, en tout cas.
Votre univers, vous vous retrouvez là-dedans.
Ouais, mon univers.
Bah, génial.
Je tenais à vous féliciter.
Parfaitement heureux.
Ghislain Fontana.
Et féliciter votre univériste. Il est très bon.
Ghislain Fontanus. Alors, Ramzy, comme je ne recule devant aucun sacrifice, je vous propose d'écouter encore du James Brown. Si je vous propose Give It Up, Turn It Loose, ça va, là?
Ça va très bien.
Ok, bah alors c'est parti.
Thank you.
Give it up, turn it loose. C'est un morceau de James Brown dans Pop 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 sur France Inter pour le plus grand plaisir de Ramzy, notre invité du jour. Que dis-je, Ramzy? Proviseur, Ramzy, car vous êtes un proviseur dans La lutte des classes, le nouveau film de Michel Leclerc qui est sorti hier. Bande annonce.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont?
Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est, ouais, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais, ça a l'air bien.
Mais non, je te dis. C'est...
Il était malade ce matin, Milo?
En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal.
Bah, écoute, Laurentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi?
Seul blanc.
Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel.
Et je vois que vous avez fait un clip.
Un nom.
C'est-à-dire que personne ne le recule au sens enculé, le pape.
Si vous avez...
C'est difficile de rebondir derrière.
C'est bien de finir avec ce mot.
Vous inquiétez pas. Vous avez deux filles qui ont 11 et 17 ans. Vous êtes donc en plein dans l'œil du cyclone.
Complètement, oui.
Vous êtes plutôt... Quelqu'un vous appelle?
C'est ma fille.
Ah, bah, répondez-lui, j'en prie, décrochez, décrochez. Non, décrochez. Je vais lui poser la question.
Non, mais c'est une vanne, c'est pas ma fille.
C'est qui?
Je sais pas, numéro inconnu, je ne connais pas.
Mm-hmm, je décroche pas. Vous recevez des numéros inconnus.
Je décroche pas.
Bah, décrochez, allez-y, on va
ça
voir.
Ça va pas, la non. tête ou quoi.
Bon, team école publique ou team école privée?
Dans quoi, team, quoi?
Vous, pour... dans la vie en général.
Moi, mes enfants sont à l'école publique. Mm-hmm. Oui. Et moi, j'étais à l'école privée sous contrat avec l'État.
Vos parents se sont saignés pour vous mettre dans une école privée.
Pour me payer cette ouais, ces écoles-là.
Parce qu'ils n'avaient pas du tout confiance dans l'école laïque et qu'ils pensaient qu'en banlieue, elle ne favorisait pas.
Alors, mes parents ils pensaient pas, ils voyaient ouais. que effectivement l'école d'en bas, on n'allait pas s'en sortir. Mm-hmm. Du coup, j'étais à l'école catholique à côté. Mm-hmm.
Mais est-ce qu'on peut tomber d'accord, et c'est aussi le propos qui est tenu dans le film, sur le fait que, avant d'avoir des enfants, on a des principes, mais qu'après on a des priorités qui peuvent impliquer quand même certains renoncements?
Complètement. Complètement. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce film, parce que j'ai de la chance de pas avoir trop ce problème, et je me dis, si je l'avais eu, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je serais comme Leïla et Edouard, Leïla Bechti et Edouard Baird, ou alors je serais comme cet autre couple qui décide finalement de changer? Et moi, ils sont dans le Marais, à l'école publique, donc dans le Marais, franchement, j'ai pas cette question à me poser, mais c'est une question qui est vraiment, qui nous touche tous. Mmh. C'est comme quand tu dis, ouais, j'aime bien les, t'as des enfants, tu dis, moi, j'aime bien les Noirs, jusqu'à que ta fille, elle te ramène un Noir à la maison. Mmh. Et là, j'ai vu des gens ne plus aimer, ou ne poser des problèmes.
Alors qu'avant, votre fille vous a ramené un Noir à la maison?
Non. Mais c'est quand on a des grandes déclarations avant de bobos de gauche, comme ils disent, et dès qu'on est confronté soi-même au problème, ben on agit différemment. Mm-hmm. C'est un peu ça que raconte le film.
Quel genre d'élève vous avez été, vous?
J'étais très beau, très beau. J'étais le chouchou, j'étais très mignon.
Ouais.
Vous voulez savoir physiquement ou alors
Non, je parle en termes de performance. Ah,
J'étais très bon élève.
Ouais. Sage.
J'étais un peu dissipé, parce que comme j'étais à l'école publique, à l'école privée, j'étais le seul rebeu, et pour gagner ma place, je faisais le rigolo. Du coup, j'étais dissipé. Mais j'ai très très bons souvenirs de l'école, de mon école.
Un Ramzy Bedia dans Pop 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 sur France Inter, c'était en avril dernier. Retour au jour d'aujourd'hui, comme disent les gens que j'ai envie de claquer. Ah oui, je m'auto-claque, c'est ce que je viens de le dire, pour lancer les Pop News.
6 ans après la sortie du premier mythique volet, voici la suite d'un jeu vidéo qui résonne étrangement aujourd'hui, The Last of Us 2. On y retrouve Ellie et Joel, 5 ans après leur terrible périple à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils vivent désormais dans le Wyoming auprès de survivants et évidemment, un événement violent vient troubler cette courte trêve.
Comment tu nous as trouvés?
Tu m'arrêteras pas.
Je fais la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide.
On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû.
Et The Last of Us 2 sortira le 19 juin sur PS4.
Et le prix du meilleur titre de publication de ce mois de mai est attribué à Play It Again Dupont, un recueil des chroniques ludographiques écrites par Jean-Patrick Manchette, célèbre pour ses polars et scénarios à la fin des années 70 pour la revue Métal Hurlant, le tout sous le pseudonyme de Général Baron Staff. Il y décrit avec humour les jeux d'esprit et de tactique, ainsi que leurs règles parfois absurdes. Ainsi peut-on y lire « Le jeu n'avait pas attendu l'informatique à bon marché pour s'automatiser. Songez au Jokari ». C'est assez irrésistible, préfacé par Jean-Pierre Dionnet et publié aux éditions de la Table Ronde. Et un bonheur ne venant jamais seul, on peut aussi se délecter de Lettres du mauvais temps, correspondance 1977-95, soit 200 lettres de l'écrivain. Et parmi les destinataires figurent des lecteurs et des auteurs tels que Jean Echenoz, Donald Westlake et James Ellroy. Ouvrage cette fois préfacé par Richard Morgiev et c'est aussi publié par les éditions de la Table Ronde. Foncez en librairie.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Ouais, c'est moi.
Ramzy?
Non.
Non.
Eh non. Puis c'est... oui. Ah.
Mais pourquoi?
Puis oui.
Mais pourquoi? Parce que.
Mais pourquoi pas?
Mais pourquoi? On n'a pas.
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas? C'est vrai. Très bien.
Éric Rochon, le légendaire réalisateur du Bureau des Légendes, est dans le bureau de Popopop dans quelques instants. Juste après A Hero's Death, le tout nouveau morceau du groupe de post-punk irlandais Fountains D.C.
Vous êtes fatigué un peu, non?
Life ain't always empty. Life ain't always empty. Le retour de Fontaines D.C., c'était le morceau Heroes Death. C'est un morceau qui a poussé deux ou trois de nos auditeurs en EHPAD à régler le volume de leur sonotone. Et avec nous par téléphone aujourd'hui, Éric Rochant. Bonjour Éric, est-ce que le sonotone est bien réglé?
Bonjour, oui, mon sonotone va bien.
Éric Rochant, avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez-vous que pendant cet enregistrement, en dehors de nos auditeurs, nous sommes possiblement écoutés?
Non, a priori non, on n'est pas écouté. on n'a pas assez d'intérêt, je pense, chacun de nous, pour être écouté.
Moi, j'espère qu'on l'est quand même un peu, hein, parce oui. que n'oublions pas que France Inter est...
Oui. Bon.
Le Bureau des Légendes est une des séries, pour ne pas dire la série, qui nous a le plus promené à travers le monde. Comment avez-vous vécu le confinement, vous l'homme, aux 100 000 miles?
Alors c'était d'abord j'ai commencé le confinement en finissant le Bureau des Légendes, puisqu'on était encore en train de terminer la post-production, le mixage, etc. Donc voilà, en fait j'ai commencé le confinement évidemment en travaillant sur le Bureau des Légendes. Quand il est sorti, en général quand la saison du Bureau des Légendes sort, je me débrouille toujours pour ne pas être là, pour être un peu d'ailleurs c'est le moment où je peux prendre des vacances en général, ouais. Parce que, en général après faut écrire à la suivante. Donc ben voilà, donc les vacances ou le repos que je devais avoir, ben je suis passé en confinement. Donc c'est comme ça que ça s'est passé.
Là ça n'a pas été trop brutal le contraste entre les déplacements, l'action permanente et d'un seul coup l'inaction forcée?
Alors non, d'abord je dirais nous les scénaristes, mais enfin disons que voilà, les scénaristes, on a plutôt l'habitude d'être enfermés chez nous pour écrire. Mais comme dit Houellebecq, en fait pour écrire, il faut marcher. Il faut sortir en fait. C'est vrai que c'est comme ça que moi par exemple, c'est en courant que je règle tous mes problèmes de scénario en général. À chaque fois qu'il y a un nœud scénaristique qu'on n'arrive pas à trouver la solution, je fais un peu de running comme on dit et hop, en général je trouve. Donc il faut sortir, mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'être enfermé quand même.
On a l'habitude de dire qu'en période de Coupe du Monde de foot, chaque Français devient un entraîneur en puissance. Alors on peut ajouter que quand un showrunner doit conclure une série qui est très très aimée, bah chaque spectateur se transforme en scénariste. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience un peu étrange ?
Alors je suis un peu habitué maintenant. Alors ça c'est la série qui veut ça. La série c'est un rendez-vous, ouais. C'est un rendez-vous régulier tous les ans. Mais en même temps c'est la série qui veut ça. On n'a pas ça sur les longs métrages. Donc on est habitué en fait aussi maintenant avec les réseaux sociaux. On est habitué à avoir un accès direct aux gens et c'est pas désagréable parce que ça nous permet de réaliser un certain nombre de choses qu'on pouvait pas imaginer. Moi j'ai appris des choses cette année sur ma propre série grâce un peu aux réactions des gens. Avant, quand on faisait des films, enfin quand je faisais des films, d'ailleurs je vais peut-être en faire encore, je parle pas au passé, mais quand on fait des films, on rencontre le public au moment des avant-premières, des projections, et donc les gens viennent vous parler après la projection. Bon, ben là c'est un peu plus massif et un peu plus régulier, donc c'est intéressant.
Vous qui êtes devenu, Éric Rochant, expert dans le domaine de l'espionnage, est-ce que le confinement a eu pour effet de développer encore plus le cyberespionnage qui occupe une place importante dans la dernière saison?
Ah ben ça c'est clair, ça c'est clair que le cyberespionnage... Non seulement ça a développé toutes les possibilités de hack, de choses très importantes. Surtout, en fait, dans le domaine, je pense, surtout dans le domaine économique, puisque on est tous sur Zoom, sur Meet, sur je sais pas quoi. Donc, on fait tous nos réunions en échangeant quand même des données, et en échangeant en s'échangeant des idées entre nous. Mais surtout, c'est que maintenant, avec le développement du télétravail, manifestement, le monde d'après va ressembler, d'après ce que je lis, à un monde un tout petit peu plus connecté et avec du télétravail, ce qui est pas mal puisque du coup on va moins utiliser nos voitures, etc. Mais là c'est vrai que là les hackers et les États espions et donc la cyberguerre va vraiment se développer.
Éric Rochant, je sais que cette question va sonner comme le choix de Sophie, mais tous les spectateurs ont joué à ce jeu, moi y compris. Donc je vous le soumets. Au fil de ces 5 saisons, est-ce qu'il y a un personnage pour lequel vous avez développé une affection, une empathie toute particulière?
Non, mais il y en a plus.
Un seul.
Celui qui arrive en tête.
Ah bah oui.
C'est salaud ça. Celui qui arrive en tête, c'est toujours le dernier. Donc en fait, c'est le dernier sur lequel on a vraiment travaillé. Mais c'est vrai que du coup, c'est la dernière impression. Je dois vous avouer que non, je vais pas. je vais pas obéir à votre injonction. Je vais dire que j'ai une grosse tendresse pour la mule, parce qu'elle, d'abord, elle est pas difficile à écrire, tellement ouais. on la connaît, tellement voilà. Mais c'est vrai que je pense que moi j'ai terminé. Vous savez, pour moi j'ai terminé quasiment sur Marie-Jeanne, en fait. Enfin, j'ai fait une très grosse scène d'attaque de l'hôtel dans la saison 5 et en finissant sur Marie-Jeanne. Mmh. Et c'est vrai que cette fin sur Marie-Jeanne qui se bat contre un terroriste et puis ensuite qui tombe dans les bras de l'officier des renseignements égyptiens, qui est pas non plus un tendre, je dois avouer que ça m'a donné une vraie tendresse pour elle, quoi. Voilà.
Mais alors, comment sait-on, quand on est showrunner, qu'on en a fini à titre personnel avec une série, quand c'est pas le public qui vous le signifie, j'entends?
Eh bien, on mesure le degré de souffrance qu'on a à écrire et à réaliser la série. Donc chaque année ça monte. Et au bout d'un moment, à chaque fois on se dit bon, là ça va passer ou ça va casser. À chaque fois on a la trouille, on se dit mais c'est pas possible, on va jamais arriver à faire un truc qui plaise aux gens. Et donc à chaque fois on remise, c'est un pari. C'est vraiment différent du cinéma, parce que dans le cinéma on fait un one shot à chaque fois, c'est un film et terminé. C'est raté ou réussi, mais dans une série, quand une saison est réussie, on remet sur le tapis, on est complètement dingue. Il faut se barrer à ce moment-là. Il faut take the money and run. Il faut partir. Et non, mais non, on revient, on remet sur le tapis. Et donc, à un moment donné, on sent le moment où on va se dire, non, mais là, on y est arrivé, mais c'était tellement juste qu'on va peut-être s'arrêter avant. Voilà.
Vous avez passé la main pour les deux derniers épisodes à Jacques Audiard. Quel mot trouve un réalisateur pour convaincre un autre réalisateur de conclure une histoire qu'il a développée aussi bien en tant que réal que showrunner pendant des années?
Ah oui, ça je sais pas, parce que c'est tellement miraculeux. Moi, je voulais vraiment que ça soit lui qui reprenne le flambeau, mais il y avait aucune chance qu'il le fasse. Aucune. C'est un cinéaste reconnu qui a fait des films extrêmement forts. Bon, ben je sais pas, il s'est passé que j'ai eu la chance que un, il avait vu la série, il l'aimait, voilà. Deux, il était dispo, dans un petit créneau. Trois, ça l'intéressait. donc c'est vraiment absolument miraculeux. Donc moi j'ai eu qu'à lui dire, est-ce que tu veux pas faire les deux derniers épisodes s'il te plaît, et il a dit oui. Alors effectivement, ce qui était marrant, c'est que il a commencé par dire ok, mais je veux pas écrire. Je lui dis mais non, mais tu écriras avec une équipe de scénaristes comme moi je fais, c'est-à-dire voilà, je peux te prêter des scénaristes, tu peux en prendre les tiens. Il a travaillé avec Thomas Bilguin, et à la fin, comme moi d'ailleurs, à chaque fois que je dis je veux pas écrire, je me retrouve à écrire. On se fait piéger par soi-même. Ça, alors là, on se retrouve comme ça.
Comment est-ce que vous définiriez la patte Audiard sur ces deux épisodes?
Ah ben, je dirais que sa patte, elle est un peu plus sombre que la mienne. Et deux, son écriture passe énormément par la mise en scène. C'est-à-dire que son écriture est organiquement liée à la mise en scène. Quand il écrit pour des images, il écrit pour une façon de filmer, il écrit pour une façon pour une cinématographie. Et quand il tourne, il change l'écriture.
Ouais.
Donc en fait voilà, il y a un côté très indémêlable entre son écriture et sa mise en scène, et ça c'est vraiment un style nouveau pour le Bureau des légendes.
Éric Rochant, est-ce qu'à force de travailler sur la parano des personnages, on finit par le devenir soi-même?
Oui, moi je suis complètement parano. D'abord, je suis hypochondriaque, donc je suis parano par rapport au Covid déjà. Moi, j'ai des masques. Je n'ai plus un seul copain qui ne soit pas hypochondriaque. Je refuse absolument de fréquenter des gens qui ne sont pas hypochondriaques. Moi, je veux des gens qui ont la trouille, qui mettent des masques, qui se lavent les mains, etc. Les autres, je veux même pas les voir. Donc c'est sûr qu'on devient un peu parano, mais. Mais je dois vous dire une chose, c'est que les parano ont toujours raison. C'est ça qui définit aussi la paranoïa, c'est qu'on sait très bien pourquoi on est paranoïaque. On sait très bien pourquoi les gens vous détestent. Pourquoi on a l'impression que tout le monde vous déteste. Parce que vous faites des saloperies aux gens. Voilà pourquoi on vous déteste. Et vous le savez. Donc en fait, les parano savent très bien pourquoi les gens leur en veulent.
Bon, Éric Rochant, je vous propose d'entrer dans un autre bureau, celui de la pop culture. C'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le Septième Jour de l'écrivain chinois Yu Hua. Charline, étrange, n'est-ce pas, qu'Éric Rochant choisisse un roman chinois alors qu'il n'y a pas de chinois dans le Bureau des légendes? De quoi ça parle-t-il?
Du parcours d'un défunt, le héros qui vient de mourir dans une explosion et qui est à la recherche de son père, une histoire dont la narration se déploie sur 7 jours, d'où le titre.
D'accord, on est loin des films et des récits d'espionnage, hein. C'est une fable sur l'amour et l'immortalité, si j'ai bien compris.
Exact, par contre, Yu Hua, c'est un romancier assez très, très important en Chine, et je dois vous avouer que cette crise du Covid m'a... Ça fait très longtemps d'abord que je regarde du côté de la Chine, et donc du coup maintenant je m'intéresse à la littérature chinoise pour essayer de un peu mieux, finalement, à travers la littérature, de comprendre la société chinoise, en fait.
Éric Rochand, nous avons demandé au showrunner que vous êtes de nous citer une série, et votre choix s'est porté sur Better Call Saul, le spin-off de la série Breaking Bad. Charline, redites-nous pourquoi on ferait mieux d'appeler Saul.
La série raconte la transformation d'un avocat au succès très relatif, Jimmy McGill, en Saul Goodman, un avocat véreux.
You will atone.
What can we do for you, Jimmy?
The money is beside the point.
Money is the point. Does this scream payday to you, huh?
You know, Jimmy, in our line of work, you can get so caught up in the idea of winning that you forget to listen to your heart.
Better Call Saul, qui aurait dépassé Breaking Bad selon certains sériphiles, dont vous êtes, Éric Rochand.
Il y a quelque chose qui est un peu moins dans Breaking Bad, c'est qu'il y a une réelle tendresse sur le personnage. C'est très tendre. Parce que le personnage de Saul est extrêmement attachant. Et alors, je trouve aussi que là, il y a un couple, puisque Saul est en couple avec une femme, une avocate. Et alors, il y a un couple assez inédit dans la série. On ne sait pas très bien sur quoi ça fonctionne. Mm-hmm. C'est pas de la passion. C'est pas, c'est une relation amoureuse extrêmement intéressante. Voilà. Vraiment, qui est très attachante. Et le couple, les deux personnages sont vraiment formidables. Et ils arrivent peu à peu, hein. C'est pas tout de suite qu'on les présente.
Terminons cette pop liste, Éric Rochand, avec la chanson que vous choisissez. Cette chanson, c'est Vermilion du DJ et producteur britannique Damien Lazarus. Vous êtes donc plus électro que country western, si je comprends bien.
Oui, carrément. Là, je suis un peu dingo de l'électro. Je suis un peu électro, même berlinois, c'est-à-dire la minimale, un peu austère. Et là, c'est vrai qu'en fait, j'ai choisi ce morceau qui est un morceau qu'on a écouté énormément pendant le tournage du Bureau des légendes. À chaque fête, on le mettait. Ça nous rendait totalement hystériques et avec d'autres morceaux, mais celui-là, vraiment. Oui, Vermilion, c'était un morceau très, très important du Bureau des légendes. Donc voilà.
Et bien, on l'écoute tout de suite dans Pop Pop Pop.
skies. And let your darkness disappear beneath the stars.
Vermilion dans Pop, c'est signé Damien Lazarus. C'était le choix d'Éric Rochon, notre invité slash programmateur musical, le temps de ce morceau. On ajoute donc programmateur musical à côté de showrunner sur votre CV. Ça vous va?
Ça va, moi ouais, ça me va bien.
Bon. Ajoutons également Madame Irma de la pop culture, car j'ai besoin d'avoir votre avis sur deux, trois points et vous n'échapperez pas à nos petites questions, hélas, rituelles. Alors, Éric Rochon, d'un coup de baguette magique, vous pouvez prendre une mesure qui change la donne dans ce monde post-confinement. Que décidez-vous ?
C'est un peu compliqué. D'abord, j'aurais bien aimé préparer cette question parce que si on doit avoir un programme présidentiel, je préfère plutôt y travailler d'abord. Mais cette crise a révélé quand même quelque chose, a révélé quelque chose sur le populisme. Tout le monde s'y met. Alors vous m'avez dit lors de la Coupe du Monde, tout le monde est entraîneur. Mais alors là, tout le monde est médecin, tout le monde est épidémiologue, tout le monde est gestionnaire de crise. Tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Et il y a une pression des réseaux sociaux sur les gouvernants qui fait qu'ils font des conneries. Moi, je pense que toutes les conneries qu'a fait le gouvernement, c'est parce qu'il a eu la trouille sur plein de choses. Il a eu la trouille sur plein de trucs, et donc tout le monde, tous les politiques essayent de gouverner, de décider un peu sous la pression des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on peut pas dire que ça soit la pression la plus intelligente qui soit. Donc c'est un peu compliqué. Donc, mais pour en revenir sur le populisme encore une fois, je pense que quand même que le populisme est au pied du mur sur cette histoire, parce que on peut mentir, on peut dire des conneries, on peut raconter ce qu'on veut, on peut raconter ce que les gens ont envie d'entendre. Très bien, ça c'est le populisme. Le problème c'est que le Covid et la crise sanitaire, elles s'en foutent un peu des fantasmes et de la politique. Et là, les populistes aujourd'hui, je trouve, les grands populistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire que sont Trump, Bolsonaro et peut-être même Boris Johnson, sont un peu, ont été quand même déstabilisés et ont pas, c'est pas génial ce qu'ils ont fait. Et le pire étant évidemment Bolsonaro, parce que là, au Brésil, Bolsonaro, je crois, est en train juste de tuer son peuple. Voilà, faut le dire comme ça. Donc les populistes aujourd'hui sont au pied du mur du réel, le réel étant le Covid. Parce que ça, évidemment, le réel n'obéit pas. N'obéit pas aux injonctions et n'obéit pas aux fantasmes. Il vient là où on ne l'attend pas.
Vous allez finir showrunner de Baron Noir, hein, Éric Rochon. Je vous préviens en tenant ce genre de discours. Quelle est la chose que vous rêvez de faire une fois que tout sera revenu à la normale ?
Alors, je rêve de nature. Je rêve de nature, la nature, la nature, les bonnes odeurs, la chlorophylle, la terre. Je rêve de nature. Je veux m'enfoncer dans la nature. Voilà.
Enfin, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, à savoir est-ce que vous pensez que cette crise va nous permettre de changer de type de société ou qu'au contraire tout va recommencer comme avant?
J'irais presque ni l'un ni l'autre. Je pense que tout ne va pas recommencer comme avant. Mais un peu plus quand même que ce que les gens espèrent en disant tout va changer, etc. Non, les gens, tout ne va pas changer. Enfin, moi, c'est ce que c'est un peu ce que je crois, hein, c'est que tout ne va pas changer. Mais il y a des choses qui ne vont pas revenir. Ça, c'est clair. on va peut-être être un peu moins imbus de nous-mêmes en disant, ben non, mais en Asie, c'est pas nous, les Asiatiques, ils font des trucs un peu zarbi, comme ça, ils mettent des masques n'importe quand, même quand ils sont en rhume, ben peut-être que nous aussi, on va le faire. Et puis après, effectivement, on va peut-être probablement relocaliser un certain nombre de choses, parce qu'on n'a pas envie d'être dépendant d'un pays quand même qui est une dictature. La Chine, c'est pas un pays capitaliste super rigolo, etc. Non, c'est une dictature communiste. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a eu ce problème-là. C'est parce que, en fait, c'est une société qui est fondée sur la peur, sur la suspicion permanente. Et en fait, les responsables à Wuhan, les responsables ont eu la trouille de dire ce qui se passait. Ils ont eu tellement la trouille qu'ils ont caché. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris du retard. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui vont pas, on va pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. On va essayer d'être un peu plus indépendant. Alors ensuite, est-ce qu'on va vivre dans une société plus juste, meilleure? Peut-être, j'espère, mais ça, c'est malheureusement, le réalisme veut que ça soit pas aussi rapide que ce qu'on croit, que ce qu'on veut, quoi.
Merci Eric Rochant, merci pour cet éclairage lumineux sur l'actualité et sur votre série aussi. Et merci surtout de ne pas nous avoir rendu visite pendant cette période post-confinement. On est très sensible à ça.
Voilà, je vous ai pas apporté mes miasmes. Voilà,
bon, je rappelle que le coffret des 5 saisons du Bureau des Légendes est disponible depuis aujourd'hui et qu'il n'est pas conseillé, qu'il est indispensable. Merci encore Eric de nous avoir répondu.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt et merci Charline, rendez-vous avec vous demain, nous serons en duplex avec William Legill et nous rembobinerons le pop-up de Carole Rocher. Avec toute l'équipe de Par Jupidémie, ça c'est dans un instant.